je suis un peu intimidé parce que c'est la première fois que je participe à ce week-end, donc je n'en connais pas vraiment le genre littéraire. Alors j'espère que vous vous accommoderez du mien, de toute façon. On va vivre plusieurs heures ensemble, hein, jusqu'à demain après-midi. On terminera par la célébration de l'Eucharistie. Autour de ce thème, en effet, comme Cyril vient de le dire, j'ai choisi, puisque Patrick me demandait de proposer un verset biblique, un thème, un titre à ce week-end, j'étais un peu en manque d'imagination, mais ça tombe bien. J'ai choisi le verset de l'évangile de Jean que j'avais imprimé au dos de la petite image distribuée le jour de mon ordination. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alors, vous comprenez qu'il y a une grande sympathie à l'égard du thème de cette année. Monnayé de manière magnifique, j'y reviendrai, je trouve, dans le livret d'année. J'ai été un peu pessimiste. Mercredi soir, Marcel a fait lever la main à ceux qui étaient là à la messe pour évaluer le nombre de participants. Une dizaine de mains sont levées, je me suis dit, bon, il y aura peut-être le double. Donc j'ai imprimé 20 feuilles, et vous êtes plus que ça, c'est parfait. Sur ces feuilles, je donne le plan de mon intervention, les questions pour cet après-midi et pour demain. Et puis je propose aussi un tableau qui sera utile surtout demain. Ce que je dirai à ce moment-là, peut-être que les responsables de l'association pas trop loin de Bagnas et qui ont les clés pourront photocopier ce qui manquerait. Alors je vous donne déjà le papier, prenez-en voilà, un pour deux au moins, et puis voilà, débrouillez-vous. Il y aura 5 points à mon propos, mais vous allez voir, le point 1 et le point 5, c'est une introduction et une conclusion. L'introduction sera longue, la conclusion sera courte. Entre les deux, l'exposé ou l'entretien s'organise surtout en deux mouvements. Le premier mouvement, c'est aujourd'hui, consiste à regarder du côté de Dieu ce qui se passe, et j'intitule cette intervention « La vie en abondance ». Et puis, le deuxième mouvement, c'est ce qui se passe du côté de l'homme, et j'intitule ce mouvement-là « Accueillir sa fécondité », en reprenant le titre et le sous-titre du livret d'année. Voilà. Ne regardez pas trop le papier encore, vous aurez le temps. Premier point donc, que j'intitule « Ouverture ». Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Je cite un texte un peu connu pour ceux qui fréquentent le monde jésuite, très peu en dehors, le numéro 23 des exercices spirituels, autrement intitulé « Principe ou fondement ». L'homme est créé pour cette fin, F-I-N, pour cette finalité, l'homme est créé pour cette fin, louer le Seigneur son Dieu, le respecter et, en le servant, être finalement sauvé. Et tout ce qui se trouve d'autre sur terre a été créé à cause de l'homme lui-même pour l'aider à poursuivre la fin de sa création. Et après, Saint Ignace poursuit. Il s'ensuit donc qu'il doit en user ou s'en abstenir à proportion de ce que la favorise ou gêne la poursuite de sa fin. Aussi devons-nous nous comporter sans faire de différence entre les choses, etc., etc. L'homme est créé pour cette fin, louer le Seigneur son Dieu, le respecter et, en le servant, être finalement sauvé. Je vous propose d'entrer dans la réflexion de ce week-end par la porte d'en haut, celle qui donne sur le ciel, qui est notre horizon. Vous connaissez tous, au moins de réputation, saint Ignace. Il rédige les exercices spirituels vers la moitié du XVIe siècle pour aider ceux qui le souhaitent à bien orienter leur vie, libre de toutes sortes de liens aux choses créées, pour suivre le Christ, chemin, vérité et vie, et le suivre le plus parfaitement possible. Voilà. L'homme est créé pour louer le Seigneur son Dieu, le respecter, le servir, et par là être finalement sauvé. Je propose de garder ce galet-là en poche, et puis on va le tourner un peu dans tous les sens. L'homme est créé pour louer le Seigneur son Dieu. L'homme est créé pour louer le Seigneur son Dieu. Le respecter, le servir, et par là être finalement sauvé. Alors à l'introduction, il faut ici ouvrir une petite parenthèse pour bien comprendre la notion de salut. De quoi parle-t-on quand on parle de salut ? Je vais dire les choses de manière très schématique, un peu simpliste, mais j'espère que ça nous aidera à planter le décor. Alors on va partir de la représentation classique du monde, le ciel en haut, la terre à notre niveau, des choses en bas, et entre nous et le ciel, un obstacle qui empêche de bien voir, qui empêche surtout d'y aller. Depuis que l'homme est homme, il regarde le ciel, il lui confie ses morts, et il rêve d'y aller un jour, pressentant que quelque part par là se trouve la réponse à ses questions, la satisfaction de ses aspirations les plus essentielles. Et dans le même temps, il expérimente qu'il ne peut pas atteindre ses sommets tout seul. Même en sautant très haut et de plus en plus haut, il bute sur un couvercle, et j'aime dire un couvercle à deux parois, un couvercle bien, bien solide. Double paroi. Une première paroi qui est liée à sa finitude. On est mortel parce qu'on est vivant. Voilà. Dès lors que l'on vit, notre composé fait que, notre composition fait que c'est mortel. Nous sommes finis. C'est la faute à personne, c'est la faute à la vie, c'est comme ça. Or, il y a en nous quelque chose qui voudrait que ça soit autrement. Et puis, à cette finitude-là, finitude biologique, s'ajoute une autre finitude. Une finitude spirituelle liée à l'usage de la liberté, finitude lorsque cet usage ne va pas dans le bon sens, qu'on appelle en langage chrétien le péché. La mort et le péché, c'est une expression rapide que l'on emploie souvent, que l'on entend souvent sans trop faire attention, que ces deux mots désignent deux parois étanches qui nous séparent du ciel, deux cloisons hermétiques qui nous séparent du ciel. Une qui est liée à la biologie, c'est la faute à personne, une qui est liée à notre liberté. Le salut, c'est être libéré de ces obstacles-là, de ces deux mondes d'obstacles, de ces deux mondes d'obstacles, et passer à travers le couvercle d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas que le couvercle permette le passage soit dans un sens, soit dans l'autre. Et toutes les religions du monde, les religions de salut, s'emploient à trouver le chemin qui permet de passer à travers le couvercle. Saint Ignace pose comme principe et fondement à l'entreprise des exercices spirituels qui visent à bien orienter sa vie pour qu'elle se déploie libre de toute entrave, pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle soit, qu'elle se déploie en abondance donc. Saint Ignace pose comme principe et fondement le rappel de cet élément fondamental de la révélation biblique. L'homme est créé pour louer le Seigneur son Dieu, le respecter, le servir, et par là, être finalement sauvé. L'homme est fait pour louer Dieu, et c'est dans la mesure où il fait ce pour quoi il est fait qu'il est sauvé. En effet. L'homme est donc créé pour louer son Créateur, pour servir sa gloire. Je vous renvoie à la formule de la messe en réponse à l'invitation du prêtre pour la prière sur les offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Les deux sont associés. L'homme est créé pour louer son Créateur, pour servir sa gloire. Le désir de la gloire de Dieu, le désir de la gloire de Dieu est une des premières demandes de la prière que Jésus enseigne à ses disciples, de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est dans le service de cette gloire que se déploie le plein déploiement, que se réalise le plein déploiement de la vie. Dans le service de la gloire de Dieu. Merci aux pentecôtistes américains, puis aux mouvements charismatiques en France qui se sont développés dans les années 70 et qui ont réveillé l'Église catholique latine sur cet aspect de la relation du croyant, du disciple de Jésus, à Dieu. Par avant, l'Esprit Saint, la louange, ce n'était pas le genre littéraire dans les communautés catholiques. Or, Saint Ignace, au XVIe siècle, dit que l'homme a été créé pour louer Dieu. Deuxième étape de cette introduction. Qu'est-ce que servir la gloire de Dieu et comment le faire ? Ceci posé, qu'est-ce que ça veut dire, servir la gloire de Dieu, et comment servir la gloire de Dieu ? Cette question, eh bien, elle a été posée et réfléchie par beaucoup, et je choisis la formulation célèbre de Saint Irénée pour poser quelques jalons supplémentaires. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Irénée médite le mystère de Noël, le mystère de l'incarnation. Il a de très belles formules. Le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, afin de faire de nous cela même qu'il est, lui. En Jésus, Dieu s'est donné à voir. Rappelez-vous l'échange entre Jésus et Philippe dans l'Évangile, et Thomas. « Qui me voit, voit le Père. Qui me voit, voit le Père. » Non, c'est Philippe. Dieu s'est donné à voir en Jésus, donc un moment de l'histoire du monde, il y a à peu près 2000 ans, en un lieu, quelque part de l'autre côté du bassin méditerranéen, Dieu s'est donné à voir en un homme, Jésus. Homme reconnu comme étant Dieu lui-même qui a pris chair. Il s'est donné à voir pour que l'homme retrouve le chemin du ciel et le service de la gloire de Dieu qui est la condition de sa vie en abondance. Voir Dieu, c'est vivre. Et vivre, c'est rendre gloire à Dieu, dit Saint Irénée. Si on mélange les deux références, celle d'Ignace et celle d'Irénée, on obtient ceci. L'homme est créé pour servir la gloire de Dieu et par là avoir la vie en abondance, être sauvé. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et ce qui fait vivre l'homme, c'est de voir Dieu. En mélangeant autrement encore, on obtient pour l'homme, voir Dieu fait de lui un vivant, et le fait d'être vivant est ce qui sert la gloire de Dieu. Et parce qu'il sert la gloire de Dieu en étant un vivant, sa vie est sauvée, c'est-à-dire accrue jusqu'à sa pleine mesure. Il vit encore plus, encore mieux, et totalement plus, et totalement mieux, si je peux employer une expression comme ça. Ou encore, voir Dieu égale vivre déjà, vivre déjà égale rendre gloire à Dieu, c'est ce que dit saint Irénée, rendre gloire à Dieu égale vivre pleinement, c'est ce que dit Ignace. Et Dieu a posé les choses ainsi dans l'acte de la création, raconté de manière poétique dans le livre de la Genèse. Voilà pour les fondamentaux, pour la toile de fond de nos petites affaires. Troisième étape de cette introduction. Hélas, depuis que l'homme est homme, et qu'il regarde le ciel, il constate que les choses ne fonctionnent pas aussi idéalement. Quelque chose s'est enrayé quelque part. Le livre de la Genèse raconte alors la blessure originelle. Il vaut mieux parler de blessure que de péché, parce que il vaut mieux réserver le terme de péché ces situations où la liberté de l'homme est pleinement engagée. La blessure originelle, c'est un monde enclenche, un monde marqué par le mal, mais on n'y est pour rien, au point de départ. Sauf que notre liberté va rajouter du mal au mal, etc. Bon, bref. Depuis ce moment que raconte de manière poétique le livre de la Genèse, depuis ce moment, moment symbolique et réel, plus que moment historique, bien sûr, comme vous savez, depuis ce moment, tout est devenu plus compliqué. Précisément, une conséquence de cette blessure première est la perte de la vision. L'homme ne voit plus Dieu aussi facilement et sa vie devient plus pénible. Voir Dieu ne va pas de soi. Voir Dieu ne va pas de soi. Et lorsque nous avons la chance d'avoir la foi, je me souviens l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je témoignais un soir à la messe mensuelle à Saint-Sulpice que je venais de vivre une épreuve un peu importante avec le départ d'un confrère. D'un confrère de mon âge, donc d'un très jeune confrère, pour la pire des raisons qui soit, la perte de la foi, ou le constat qu'il n'avait pas la foi. C'est la pire des raisons. Quand on part avec quelqu'un, on part pour. Quand on part parce qu'on a perdu la foi, on part à cause d'eux, mais on part pour rien. La foi ne va pas de soi. Ne pas voir Dieu rend les choses très compliquées. L'homme ne voit plus Dieu aussi facilement, et il faut les yeux de la foi pour le voir en bien des situations, en bien des personnes, en bien des moments de la vie du monde et de nos propres vies. Hein. Voir Dieu ne va pas de soi, et partant de là, être un vivant et non un survivant, un vivant, vraiment, eh bien, est plus difficile, puisque voir Dieu égale vivre, ne pas voir Dieu égale vivre plus difficilement. Et à cause de cela, le service de la gloire de Dieu est affecté, puisque ce qui sert la gloire de Dieu, c'est d'être bien vivant. Et que pour être bien vivant, il faut voir Dieu. Donc, si ça ne marche pas au départ, la suite a du mal à suivre. Enfin, ce n'est pas très français comme expression, mais... Le service de la gloire de Dieu est affecté, amoindri, et la vie de l'homme se dégrade. Il faut donc reprendre les choses à la source. Genèse 1, 27, 28. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, il les créa, homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Le sixième jour, Dieu crée l'humanité et lui donne sa mission. Au verset 22, il avait donné le même ordre aux poissons de la mer et aux oiseaux du ciel, d'être féconds et de se multiplier, de remplir la terre. Là, c'est à l'homme et à la femme qu'il s'adresse. Il leur commande d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre, de devenir responsable de toute la création, incluant le foisonnement des créatures qui déjà ont commencé à se multiplier de leur côté. J'aime observer cette abondance de vie, ce foisonnement, ce débordement, quoi, hein, ça grouille. Je vous invite à retenir qu'à l'origine de toute chose, il y a un commandement de Dieu. Soyez féconds et multipliez-vous. Ce commandement imprime en l'homme sa vocation et sa mission. Et ce n'est pas facultatif. Lui-même vient de créer toute chose, tout ce qui vit, tout ce qui bouge, et ça foisonne. Et au terme de tout cela, il crée l'humanité et il lui remet tout ce foisonnement en lui commandant de foisonner à son tour et de faire foisonner. Et il trouve tout cela bon et même très bon. Dieu aime la vie qui abonde, et il nous commande de la faire abonder encore plus. Par tous les moyens possibles. Et c'est cela que saint Irénée comprend. Cette abondance de vie entre les mains de l'homme rend gloire au Créateur et fait vivre l'homme de la vie même de Dieu. La première vie qu'il a reçue n'est qu'un début. Mais cette première vie reçue est appelée à grandir, à se déployer et à atteindre les dimensions même du ciel. Et c'est cela qui réjouit Dieu et lui rend la gloire qui lui revient. Bon. Cela dit, je vous fais remarquer que tout cela est formulé comme un commandement. On n'aime pas trop les commandements, nous autres, déjà le terme lui-même. Spontanément, ça évoque en nous des choses pas très sympathiques, on n'aime pas bien. Peut-être que c'est culturel, que c'est français, je ne sais pas, en tout cas c'est comme ça. Et pourtant, en théologie, un adage ancien dit que Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est saint Augustin qui avait dit ça. Dieu donne ce qu'il ordonne. Un commandement, c'est une bonne nouvelle. Alors même qu'à vue humaine, on ne voit pas d'issue, parce que Dieu commande d'aimer, par exemple, cela signifie que c'est possible et qu'il nous en donne la capacité. Dieu donne ce qu'il ordonne. Parce que Dieu commande d'être dans la joie, Philippiens 4. Soyez dans la joie, je le répète, soyez dans la joie. Que votre joie soit connue de tous les hommes. Commandement. Alors même que les raisons de ne pas l'être paraissent indépassables, cela signifie que la joie est donc possible. Bonne nouvelle. Grâce à lui. Quand Dieu commande d'être fécond, alors même que pour mille raisons, on ne voit pas comment c'est possible, cela signifie que ça l'est donc. Et c'est une bonne nouvelle. Ces commandements indiquent à la fois la vocation de l'homme, la mission qui est remise entre ses mains, la responsabilité qui est remise entre ses mains, sa mission. L'horizon de sa vie, ce à quoi il est appelé, sa vocation, le ciel, pour dire les choses, et sa responsabilité devant la vie, la sienne et celle du monde. Sa mission. C'est une bonne nouvelle que nous allons approfondir maintenant en deux temps, je le dis, avant un troisième pour conclure. Tout d'abord, je vais braquer le projecteur donc du côté de Dieu qui donne la vie en abondance et qui veut qu'elle s'accroisse toujours, puis du côté de l'homme convoqué à la fécondité. Et en conclusion, nous verrons comment tout cela se noue dans le mouvement eucharistique. Tout recevoir de Dieu, tout rendre à Dieu, pour vivre en abondance, pour donner la vie en abondance, dans toutes nos vies telles qu'elles sont. En conclusion de cette introduction, je voudrais par avance demander pardon si tel ou tel propos perçu blessant, je ne sais pas quoi, pas très adroit, bon. Surtout, bon, c'est pas l'intention. Et puis aidez-moi, si c'est le cas, à corriger le tir. Deuxième point, premier point, premier mouvement, premier temps, du côté de Dieu, la vie en abondance. Ça va ? Le premier chapitre du livret d'année porte comme titre « La vie comme abondance et comme don ». Il est question de vie donnée, de vie abondante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le psalmiste est un croyant dont le cœur chante la foi, une foi reconnaissante pour la vie, que Dieu donne et comble, donne et remplit. Même si la route passe par les ravins de la mort, même si la route passe devant quelques ennemis, ma coupe est débordante. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, La Bible est la longue révélation de la volonté de Dieu de donner la vie. Pas seulement une petite vie où on survit, je le dis tout à l'heure, mais la vie en abondance. Je ne le redirai pas, mais ce n'est pas par hasard si pour l'Eucharistie, on se sert de pain et de vin. La nourriture de base pour la vie humaine à minima, c'est le pain et l'eau. Le vin, c'est pour un surcroît de vie, c'est pour la joie propre de l'homme. Dieu donne la vie et il veut que cette vie abonde et qu'elle soit humaine. Et pour être pleinement humaine, survivre ne suffit pas. Il faut plus que ça. Du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, la Bible est la longue révélation de cette volonté de Dieu de donner la vie et de la donner comme il la donne, en abondance. J'aime bien, dans la parabole du semeur, par exemple, alors évidemment, hein, la plupart des prédicateurs, ils ont raison parce que la tournure de la parabole invite à ce genre de commentaires, la plupart des prédicateurs braquent le projecteur sur la qualité de la terre qu'est notre cœur pour accueillir la parole qui est semée par le semeur. Et selon que l'on est terre, caillou ou ronce, ça donne pas, ou bonne terre, les mêmes fruits. Bon. Moi, j'aime bien regarder le geste du semeur, qui n'est pas un semeur économe, qui réserve sa semence seulement à la bonne terre bien préparée, et en économisant pour que surtout il n'en tombe pas ailleurs. Le geste est large et ça tombe partout. À Cana, les jarres de vin, l'eau devenue vin, déborde, et ainsi de suite. Les poissons font enfoncer la barque. Les corbeilles de pain sont plus que ce qui est nécessaire, largement. Longue révélation de la volonté de Dieu de donner la vie et de la donner en abondance. Très important de ne pas perdre de vue ce deuxième terme de la phrase. La donner en abondance. Souvent, on dit que la première chose, hein, Dieu donne la vie. Mais quand on entend Dieu donne la vie, il faut entendre Dieu donne la vie et la donne en abondance. Longue révélation, non seulement de sa volonté de le faire, mais aussi de la réalisation de cette volonté, de son déploiement tout au long de l'histoire, jusque dans nos vies à nous, jusque dans les mouvements du monde et de nos sociétés. Dieu continue de déployer cette volonté de donner la vie et de la donner en abondance. Aujourd'hui aussi. Pendant l'exode au désert, Moïse leva la main et de son bâton il frappa le rocher par deux fois. L'eau jaillit en abondance et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Livre des Nombres, 20-11. Au terme de ce parcours, de leur parcours, les Hébreux prendront possession du pays et pourront prolonger leurs jours sur la terre que le Seigneur a juré à leur père de leur donner, à eux et à leur descendance, un pays ruisselant de lait et de miel. Deutéronome 11-9, et ainsi de suite. Ça foisonne, ça se multiplie et ça déborde du début à la fin. Pendant l'exil à Babylone, épreuve terrible qui fait perdre la foi à beaucoup, le prophète Ézéchiel, au bord du fleuve étranger, voit pourtant un signe de la restauration future du temple et de la vie avec Dieu. Ézéchiel 47. l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici. Sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager, c'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. » Au-delà des apparences, au-delà des épreuves, au-delà de la nuit, au-delà de l'exil, au-delà de la mort, au-delà des stérilités de toutes sortes, Dieu est là, pourtant. Rien ne l'arrête. Ni la stérilité de grandes femmes bibliques, ni même la mort. Sarah, l'épouse d'Abraham, donnera naissance à Isaac, alors qu'elle était âgée, stérile aux yeux des hommes. Rebecca, l'épouse d'Isaac, donnera naissance à Jacob, même chose, même circonstance. Rachel, l'épouse de Jacob, donnera naissance à Joseph, on remet ça. Même chose pour Samson, le juge, grand juge d'Israël, dont la mère était stérile. Et encore Anne, la mère du prophète Samuel. Dieu donne la vie en abondance, au-delà même de toutes les possibilités humaines. Dieu donne une fécondité improbable ou impossible à vue humaine. Il ressuscite aussi les morts. Le fils de la veuve de Sarepta, un roi 17, le fils de la femme de Sunam, 2 rois 4, un homme au contact des ossements du prophète Élisée, on balance son cadavre dans la tombe d'Élisée, et quand son corps touche les ossements d'Élisée, il ressuscite, 2 rois 13. Dans le Nouveau Testament, on connaît bien sûr l'histoire de Lazare, réveillé des morts par Jésus, Jean 11. Mais il y a aussi la fille de Jaïr, Luc 8, 41, le fils de la veuve de Naïn, Luc 7, 11, et enfin une femme de Jaffa, Dorcas, ressuscitée par Pierre, Acte 9. La vie est donnée en abondance. Et rien n'arrête Dieu. Ni les stérilités humaines, ni même la mort. Voilà le message à retenir de ce parcours, et cette vie est pour tous, pour nous, pour l'humanité, par nous, pour l'humanité. Si Israël est le peuple élu, c'est pas que pour lui, c'est pas que pour son bénéfice à lui, c'est pour être un signe planté au milieu des nations que Dieu donne la vie à tous. Je développerai cela demain, mais la théologie chrétienne dit que l'Église est sacrement du salut. Et elle explique comment entendre la formule « hors de l'Église, point de salut ». Elle n'est pas à entendre de manière étroite. Il faut rentrer dans l'Église pour être sauvé, ça c'est la secte. Mais l'Église doit exister et faire fonctionner le salut pour le bénéfice de tous, qu'ils soient dans l'Église ou non. Cette vie est pour tous, pour nous, pour l'humanité. Et la vie en abondance, c'est la vie sauvée de ce qui l'empêche, de ce qui l'entrave, de ce qui la limite. Sauvée de la mort, sauvée du péché, sauvée de toutes les formes possibles du mal. La vie est pour tous, pour l'humanité, et même au-delà, pour la création, dit saint Paul, qui gémit encore dans les douleurs d'un enfantement qui dure. Mais à l'enfantement, il y aura un cri de vie, de naissance. C'est le message de la Bible annoncé par Isaïe et par tant d'autres. Chapitre 55 d'Isaïe, de 1 à 11. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donner la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Isaïe 55, 1 à 11. C'est le texte choisi pour la rencontre autour du deuxième chapitre du livret de Dueck. Et le commentaire proposé pour lancer le partage rappelait que le but du premier chapitre était de dire l'importance du regard. Il y a en effet une façon de voir la vie, dit le commentaire du livret, hein, du deuxième chapitre, là, commentant le premier. Il y a en effet une façon de voir la vie qui nous dispose à la recevoir comme un don, qui nous pousse à nous émerveiller et à rendre grâce. Et cela fait déjà de nous des vivants. Je trouve que les auteurs de ce livret ont été inspirés. Au temps de Jésus, des signes sont donnés de cette réalité du royaume. Une foultitude de signes. Matthieu, ils ont fait le choix, ils le disent au début, de prendre plus de textes que d'habitude, alors je fais pareil. Matthieu 15, 29, 37. Jésus partit de là, arriva près de la mer de Galilée, il gravit la montagne, il s'assit, de grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. » On a entendu cet évangile mercredi. « Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda « Combien de pain avez-vous ? 7, quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, il prit les 7 pains, les poissons, rendant grâce, il les rompit, les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient mangé étaient 4000, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et alla dans le territoire de Magadan. Ces signes accompagnent le message suivant. Le royaume est là. Ouvrez les yeux. Regardez les choses avec confiance, cessez d'être incrédule. Le ciel, autrefois perdu, est retrouvable et retrouvé. Dieu se donne à voir à nouveau. Ouvrez les yeux, regardez. Ouvrez les oreilles, écoutez. Et cela fait déjà de vous des vivants. Je suis très sensible, je l'ai dit tout à l'heure, à l'aspect commandement. J'aime lire Philippiens 4, 4 comme un commandement de la joie. Et surtout, le commentaire que François, le pape François fait dans la joie de l'Évangile. Philippiens 4, 4, je l'ai cité tout à l'heure. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, en toutes circonstances, priez, suppliez, tout en rendant grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées dans le Christ Jésus. Réjouissez-vous, soyez dans la joie. Que dit le pape François dans la joie d'Évangile, Evangelii Gaudium, au numéro 6. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dures. Elle s'adapte et se transforme. Et elle demeure toujours, au moins, comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause de graves difficultés qu'elles doivent supporter. Cependant, peu à peu, qu'il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s'éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis. Il ne s'agit pas de faire du volontarisme. Tout à l'heure, je disais merci aux pentecôtistes américains et aux renouveaux charismatiques, les mouvements qui se sont mis en place, qui sont nés dans les années 70 chez nous. Mais je me souviens, dans les années 80, première expérience, 80, d'un groupe de prière du renouveau. À un moment donné, j'ai ressenti ça comme un peu, peut-être c'était ce groupe-là sans doute, hein, mais artificiel, un peu surfait, quoi. On déclenchait la joie de telle heure à telle heure, à tel endroit, mais juste avant et juste après, bon. La vraie joie, celle qui vient de l'esprit, précisément, hein, elle contient en elle-même son propre dynamisme. Il ne s'agit pas d'être volontariste et de donner rendez-vous à la joie de telle heure à telle heure. Il s'agit de la laisser faire, de la laisser sourdre comme une source qui contient en elle-même sa force et sa puissance de croissance. C'est ça que dit le pape. Bien sûr, on peut être écrasé d'inquiétude, de soucis, de découragement, de colère. C'est vrai, c'est légitime. Mais pourtant, soyez toujours dans la joie, je le répète, soyez dans la joie. Philippiens 4:4. Commandement. Et le pape dit, laissez la joie de l'évangile, la joie qui vient de Dieu, qu'il met en vous, laissez-la grandir, laissez-la faire. Permettez-lui de le faire. Et ça ne fait pas de nous des gens superficiels ou insensibles à la détresse des autres, hein, ou à la nôtre. Mais voilà, espèce de confiance secrète mais ferme, dit le pape. J'aime beaucoup ça. Alors, je pense à ce texte parce que je ne voudrais pas que vous pensiez, que j'ignore, que comme la joie, la foi ne va pas de soi. Même pour les croyants. Elle peut être éprouvée et questionnée par mille choses. Je sais que pour beaucoup, la question de l'homosexualité est une épreuve aussi pour la foi. Une épreuve possible parmi d'autres épreuves. Ce n'est pas le cas pour tous, mais pour certains, c'est le cas. La question du mal, de l'injustice des hommes, de la violence que rien ni personne ne semble parvenir à empêcher dans l'histoire du monde sont là aussi des lieux qui rendent la foi non évidente et parfois l'empêchent. À cela, rajouter que les chrétiens, même religieux, prêtres ou évêques, ne sont pas toujours exemplaires. La foi n'est pas évidente, peut être empêchée par beaucoup de choses. Le message de ce premier temps, de ce premier mouvement, de mon propos, c'est de dire avec les premiers chapitres du livret d'année, ouvrez les yeux et regardez. Ouvrez les oreilles et écoutez. Vous verrez, vous entendrez que le chemin du ciel est ouvert. La vie est donnée par Dieu en abondance. Et l'accueillir dans notre propre histoire est possible. Pas automatique, pas facile, mais possible. Tout jeune prêtre, je me souviens d'une rencontre d'aumônerie. J'ai été ordonné en 1991 et j'étais aumônier de plusieurs lycées publics et catho. Et donc 1991, vous voyez les années, À ce moment-là, le ministère de l'Éducation nationale réunissait les lycéens pour leur expliquer comment enrayer l'épidémie du sida par l'usage du préservatif. Alors les jeunes, les filles, comme on rit, ont souhaité revenir sur ce sujet, puisque dans la semaine qui précédait, les 3000 ou 4000 lycéens de la ville s'étaient retrouvés pour cette session de formation. Alors on discute, tout ça, bon. Et on vous a parlé de combien de façons d'enrayer l'épidémie du sida sexuellement, transmis par voie sexuelle. Et bien d'une, préservatif. Ah. Et vous en voyez combien, vous? Deux. Ah, oui, moi j'en vois trois. Alors c'est quoi les deux? Eh bien, le préservatif, ok, je l'avais aussi. Pas de relation sexuelle, je l'avais aussi, mais c'est pas très commode. Et j'en vois une troisième. Ah. Alors, bon, on cherche sincèrement, on ne trouve pas. Alors, je fais ma petite démonstration de jeûne curé, la fidélité, etc. Le premier, la première, le dernier, en fait, tout ça. Et l'expression d'une fille, « Ah ouais, mais ça, c'est l'idéal, mais c'est pas possible. » Et ce jour-là, je me suis dit que peut-être ma mission, toute ma vie, serait de dire que l'idéal est possible. Voilà. Pas d'être naïf et bête, et puis borné, et puis revenez quand vous vivrez l'idéal, et puis sinon, je ne peux pas vous recevoir. Ça, c'est les prêtres douaniers que dénonce le pape, hein. Quand vous aurez le passeport avec tous les papiers en règle, c'est bon, je vous laisserai passer en attendant. Mais l'idéal est possible. La bonne nouvelle, c'est de dire que c'est possible, sans ignorer que c'est difficile. Voilà. Mais c'est possible. Ça change tout déjà. Et je crois que le début du livret, et sous le titre « La vie en abondance », invite à cette considération, à ce regard, ils le disent explicitement, pour nourrir en nous la conviction que c'est possible. Voilà. La vie est donnée par Dieu en abondance, et l'accueillir dans notre propre histoire est possible. Vous entendez? C'est possible. Et c'est possible aussi pour toi, pour moi, pour chacun et chacune. À chaque heure de notre vie, jusqu'à la dernière. Et qui sait, peut-être même encore après un peu. Confiance. Accueille la bonne nouvelle d'un salut possible. Le salut, ce n'est pas cesser d'être homosexuel, mais de permettre à la vie de Dieu de traverser ma vie, dans toutes ses réalités, et de déborder en vie plus grande. Pas facile, mais le dynamisme de cette vie est contenu en elle-même, parce que c'est la vie de Dieu, et non dans mes capacités à moi. Franchement, la différence entre l'homme le plus capable et l'homme le moins capable, c'est rien, c'est absolument rien. Vu depuis le ciel. Tout ce qui est requis de moi, c'est la confiance. La confiance et le désir. Fais-toi capacité et je me ferai torrent. Encore une question d'abondance. Fais-toi capacité, je me ferai torrent, disait Jésus à Sainte Catherine de Sienne, au XIVe siècle. Et surtout, écoutons le conseil que donne frère François à frère Léon, dans un très beau petit ouvrage, Sagesse d'un pauvre, d'Éloi Leclerc, ce qui précède Éloi Le Ker met en scène François et frère Léon qui marchent. Bon, Léon le plus jeune, le plus vif, il va plus vite. Il arrive au bord d'un torrent et quand François arrive, il le trouve l'air un peu pensif, là, en train de regarder l'eau. Voilà. À quoi tu penses ? Ah, j'aimerais avoir le cœur pur comme cette eau qui court, qui marche. Voilà. Et qu'est-ce que c'est avoir le cœur pur ? Demande François. C'est n'avoir rien à se reprocher. Ouh, alors je comprends pourquoi tu as l'air triste. Et il lui dit de ne pas trop se regarder comme il le fait là, mais de se tourner vers Dieu, à la place. Quand tu es tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait, de se découvrir pécheur, est encore un sentiment humain, trop humain. Il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus haut. Il y a Dieu, l'immensité de Dieu et son inaltérable splendeur. Le cœur pur est celui qui ne cesse d'adorer le Seigneur vivant et vrai. Il prend un intérêt profond à la vie même de Dieu et il est capable, au milieu de toutes ses misères, de vibrer à l'éternelle joie de Dieu. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. C'est très classique, ça. Hein, Thérèse d'Avila, solo Dios basta. Dieu seul suffit. En cela même, il trouve sa paix, tout son plaisir. Que Dieu soit Dieu. Et Dieu lui-même est alors toute sainteté, car si Dieu réclame notre effort et notre fidélité, la sainteté n'est pas un accomplissement de soi, ni une plénitude que l'on se donne, elle est d'abord un vide que l'on se découvre et que l'on accepte, et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. C'est subtil, hein ? Mais l'articulation, à mon avis, est extrêmement fine et juste. J'aime bien dire que, pour reprendre l'expression de saint Paul, quitter le vieil homme et revêtir l'homme nouveau, pour passer de la terre au ciel, ben il faut avancer, quoi. Il faut faire un déplacement. Bon, alors pour faire ce déplacement, si on représente, par l'organisation de la salle, imaginons que le déplacement en question, la terre et le ciel, consiste à passer de l'angle qui est là à l'angle opposé ici. Pour faire ce déplacement, on a toute la vie. On peut y aller en ligne droite, bon, la personne qui fait comme ça. Alors on peut zigzaguer. Bon. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on peut le faire de deux façons différentes. Soit en regardant ce que l'on fuit, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, et à force de reculer, on va finir par toucher l'angle opposé, ou bien se retourner, regarder l'angle qui attire, et se laisser appeler, quoi. Et à ce moment-là, on ne regarde plus derrière. C'est ce que dit François Léon. Se regarder pécheur, se regarder, c'est encore se regarder soi, quoi. Et c'est encore trop humain. Et ça, ça alimente la tristesse. Le découragement. Hein, bon. Allez, tourne-toi vers Dieu. Et quand tu es tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Bien sûr, Dieu réclame notre effort, hein, tout ça, d'accord. Oui, pas de problème. Mais la sainteté n'est pas un accomplissement de soi par nous-mêmes. Elle est un cadeau. Elle est d'abord un vide que l'on se découvre, que l'on accepte, et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Alors, en fonction de nos tempéraments, on va se faire dé à coudre ou citerne. Mais c'est pas grave. Dieu se fera torrent, s'adaptant à chacun, sans rien brusquer, sans rien violer. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. En Jésus, Dieu est à nouveau visible. L'abondance de sa vie est à nouveau accessible. Alors la vie de l'homme est à nouveau possible et Dieu peut recevoir la gloire qui lui revient.